Bon, bah, je voudrais encore remercier Adolfo d'être là. Encore une fois pour inaugurer le projet de Vrai ou Faux qu'on a commencé déjà ici à la Maison Populaire avec un workshop et qu'on va continuer sur 2 ans. Et comme donc Adolfo Kaminski, chimiste, photographe, faussaire, poète, rêveur, homme engagé, la liste est longue et il vous parlera mieux que moi de lui et sa fille aussi. Donc, est invité aussi dans ce projet Vrai ou Faux pour participer en tant qu'artiste, parce que si c'est un faussaire, c'est un homme politique engagé, mais c'est aussi un artiste rêveur qui a énormément de clichés, qu'il a toujours négligé. Mais j'espère que ce projet sera une occasion d'en voir une partie, en dressant un portrait de ce personnage qui était dans l'ombre et qui a eu une activité assez intense toute sa vie. Voilà, et qui maintenant, un livre nous dévoile déjà une énorme partie de cet homme. Voilà, donc qu'est-ce que ce projet européen, je diffuserai une information plus précise. C'est un peu une occasion de se questionner sur maintenant les nouvelles frontières entre le vrai et le faux. Je pense qu'à l'époque où Adolfo était faussaire, c'était assez clair ce qui était le vrai, ce qui était le faux. Et avec ses humbles moyens et sa connaissance immense sur la chimie, il a pu sauver des vies. Et puis même aider des tireurs aussi pour des photographes comme Man Ray. Hein. Et donc voilà, c'est essayer de trouver des réponses un peu à notre époque actuelle, ce que ça représente maintenant, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est fausse, et de demander à des artistes, des plus jeunes, à travers des workshops, d'essayer d'y répondre. Par exemple, il y a une anecdote que je voulais citer sur justement par rapport à Man Ray, qui avait photographié un jour dans l'atelier de Marcel Duchamp un élevage de poussière. Et donc cette photo, c'était vraiment dans un coin. Il y avait une matrice de Duchamp de La Mariée mise à nu par ses célibataires qui était couverte d'une épaisse couche de poussière. Et il a photographié ça, il a appelé élevage de poussière. Et c'était un peu la poussière que maintenant, je crois que c'est une grande phobie à notre époque, cette poussière-là. On est plutôt tenté de la chasser parce qu'elle elle est source de plein de terreurs qui soi-disant, risquent de même nous tuer. Hein. Et maintenant, si, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'élevage de poussière existe vraiment. Il y a des scientifiques avec des moyens peut-être technologiques beaucoup moins poétiques que Adolfo utilisait pour sauver des vies, qui utilisent donc la poussière pour essayer de récolter beaucoup d'informations pour soi-disant aussi sauver certainement des vies ou peut-être contrôler plutôt des territoires et préparer d'autres plans dont on ne sait pas encore. Et donc ça s'appelle la poussière intelligente. Et cette poussière qui se nomme la poussière, qui en fait déguise à l'intérieur d'une petite particule de poussière des petites caméras qui enregistrent des informations et des milliers d'informations qui peuvent donner à plein de gens. Donc là, on est dans un monde qui est devenu peut-être des contes qu'on pouvait raconter aux enfants ou que Orwell pouvait nous citer, mais qui maintenant sont une réalité. Et voilà, et Adolfo, à une époque, là, c'était beaucoup plus concret. Donc on va regarder un film, peut-être, avant que je vous laisse la parole, qui présente un peu le personnage aussi dans ses méthodes photographiques de base. Hein, je te laisse juste dire un mot pour le film.
Oui, le film, c'est en fait une photo de la Tour Eiffel avec une boîte à chaussures, c'est-à-dire c'est un sténopé, pour utiliser le terme technique. Et on peut faire des choses extraordinaires sans appareil photo, en fait, des photos sans appareil photo. Et là, c'est un peu cette démonstration que j'ai faite un jour devant les caméras. Voilà. Alors, vous allez voir ce film. Oui, vous m'entendez bien là? Oui, l'albumine bichromatée, c'est quelque chose qui a fait des merveilles, parce qu'on peut rendre sensible un tissu, on peut, par exemple, j'ai fait beaucoup de sérigraphie à une époque où on ne trouvait rien dans le commerce, surtout en Algérie quand j'enseignais. J'ai fait faire à mes élèves énormément de travaux professionnels de qualité grâce à l'albumine bichromatée. Ça veut dire acheter deux œufs, les battre le blanc en neige, ajouter un peu de bichromate, et c'est un produit photosensible qui est d'une très grande finesse. Et pour la sérigraphie en particulier, c'est beaucoup mieux que tous les produits vendus hors de prix et qui sont fragiles. Si vous avez des questions à me poser, je vous écoute.
Ben là, comme vous avez vu, il y a Sarah Kaminski qui a écrit donc l'autobiographie de son papa, qui est là aussi et qui peut certainement vous présenter son livre.
Oui, donc bonsoir. Et donc là, vous avez vu effectivement Adolfo le magicien, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a Adolfo l'artiste. Moi, j'ai connu l'artiste assez tard. Bizarrement, je savais qu'il faisait des photos. Il en a fait toute sa vie pour gagner sa vie. Et il nous disait tout le temps qu'un jour, il voudrait faire son exposition photo, qu'il avait plein de clichés. Il nous disait tout ça, on voyait plein de boîtes, mais on ne voyait jamais rien de concret. Et on a vu pour la première fois ces photos, quelques-unes d'ailleurs, pas toutes, il y a quelques années en fait. Donc voilà, donc, là j'ai découvert le papa photographe artiste. Et entre-temps, on a commencé ensemble l'élaboration de ce livre. Et là, c'est un autre père, à nouveau, dont j'ai fait la connaissance, qui est l'homme de courage et le faussaire de génie aussi, puisque donc tout ce qu'on a pu voir, ça concernait là la photo. Mais ce qui est passionnant dans sa vie, c'est que pendant 30 ans, il trouve des raccourcis comme ça, des remèdes, des inventions qui vont lui permettre de faire des faux papiers pour énormément de personnes en danger de mort. Donc voilà, mais à chaque fois, avec des choses fabuleuses, une roue de vélo, un truc trouvé là, ci, par là, une technique de chimie que personne n'avait trouvée. Enfin, voilà. Et on a commencé à discuter ensemble, moi à le questionner surtout. Il y a plusieurs années, ça a été un long travail. Je l'ai interrogé lui pendant longtemps. J'ai aussi essayé de parler avec ceux qui avaient pu le connaître pendant ces années de clandestinité. Ils étaient plus très nombreux puisque ils étaient la plupart étaient quand même décédés ou malades, etc. Et voilà. Et au bout de plusieurs années, ça donne ce livre. Ce livre, si vous le lisez, vous verrez que je l'ai écrit à la première personne. C'est pas du tout que je me suis prise pour mon père, mais juste que quand je l'écrivais à la troisième personne au passé, j'avais la sensation que c'est comme s'il n'était pas là, alors qu'il est là, il est génial, il est drôle. Donc j'avais envie de lui donner la parole, même si c'est pas forcément ses mots. En tout cas, on sent que c'est lui qui raconte. Voilà. Donc oui, avant de te passer la parole, je voulais juste revenir brièvement sur les combats qu'il a menés. En gros, ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale où il rentre dans la résistance, dans un réseau juif de résistance, mais il va finir par fournir des faux papiers pour quasiment tous les réseaux de résistance jusqu'à la libération. Après, il aide l'immigration clandestine vers la Palestine avant la création de l'État d'Israël. Il vous racontera pourquoi après. Il n'a pas voulu aller là-bas et aller en Israël comme les autres allaient. Et puis, rester en France, il s'est engagé auprès du FLN pendant la guerre d'Algérie. Et après la guerre d'Algérie, puisque ça ne s'arrête pas là, il a aidé toutes les causes de décolonisation d'Afrique, les mouvements de libération sud-américains et aussi lutter contre les dictateurs européens. Il y en avait pas mal à l'époque. Il y avait Franco en Espagne, Salazar au Portugal, les colonels en Grèce. Et voilà. Et j'en oublie sûrement. Voilà.
Oui, je pourrais dire, pourquoi j'ai commencé ce travail de faussaire. J'étais passionné de peinture, je voulais être peintre. Et il a fallu que je travaille très jeune, à 13 ans. J'ai commencé à travailler à l'usine, nous étions très pauvres. Et ensuite, il y a eu la déclaration de guerre. Et nous vivions en Normandie, à Vire. Et l'usine s'est arrêtée, évidemment. Et je me suis embauché chez un teinturier. Et là, j'ai découvert la magie de la couleur. C'est-à-dire, quand on teint un textile dans un immense récipient, quand on le teint, c'est comme si on avait trempé dans de l'encre des vêtements qu'on remue. Mais une fois que le tissu est teint, le tissu a une couleur et l'eau devient aussi claire que l'eau de source. Tout le colorant était sur le tissu. J'ai trouvé ça magique. Je voulais savoir pourquoi, comment. Et puis aussi, il y a des matières colorantes qui ne teignent que la laine ou la soie naturelle, les matières animales, et d'autres qui ne teignent que le coton, les celluloses, etc. Et je m'amusais à teindre dans un même tissu les fils d'une couleur et les autres d'une autre, selon si c'était de la laine, de la soie. C'était un peu magique. Et puis, j'ai fait des recherches sur les encres indélébiles. Il n'y en a pas. Tout ce côté magique me plaisait. Je travaillais énormément. C'était très, très dur, mais passionnant. Et le maître teinturier, avec qui je parlais toute la journée en remuant les fameuses sauces, je lui posais des tas de questions. Il me répondait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le soir, je faisais toutes les expériences et j'allais au-delà à la maison. Je ne pouvais plus faire la cuisine sans que les casseroles soient de toutes les couleurs. Je ne pouvais plus faire la lessive. Donc j'ai installé un petit laboratoire dans une maison abandonnée de mon oncle, en fait une seule pièce. Et là, j'ai fait toutes les expériences qui m'intéressaient. Entre-temps, c'était la guerre. Ma mère a été assassinée quand j'avais 15 ans. J'ai donc commencé à faire une résistance que j'appelais la résistance passive, fabriquant du savon, des cirages, renaturant du sel dénaturé pour que les cultivateurs puissent saler leurs cochons, etc. Et puis je distribuais ça gratuitement à travers le prêtre de ce village pour les pauvres. C'était ma résistance passive. Et puis, un jour, j'ai vu laboratoire à vendre. Un pharmacien avait mis en vitrine des ballons, des cornues, du matériel. Pour moi, c'était merveilleux. Je suis rentré et j'ai demandé combien coûtait tel et tel objet, etc. Et on a sympathisé avec cet homme et il m'a vendu un petit trébuchet et quelques tubes à essai. Et il m'a dit, si vous voulez, je vous garde tout pour que vous puissiez les acheter au fur et à mesure de vos possibilités. C'était formidable. Mais en fait, c'était un responsable de résistance qui avait cette pharmacie comme couverture. Et petit à petit, on a sympathisé. Il m'a d'abord demandé de faire du savon contre la gale, dont il m'a donné les formules. Et l'un des produits de base. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des petits détonateurs, des produits pour rouiller les voies ferrées ou les fil de transmission. Bref, c'était très très intéressant. Puis un beau jour, on m'a arrêté, on m'a mis à Drancy. Et là, j'ai vu les Juifs pour la première fois de ma vie. Je suis d'origine juive, mais nous n'avions pas de religion. Nous étions totalement intégrés à la population. Et là, j'ai vu, il y avait des blonds, des bruns, des roux, des petits, des grands, des gros, des maigres. Enfin, de toute une population, on parlait de race juive, mais c'est une aberration, on ne peut pas dire. En fait, c'était des gens de race humaine. Et j'ai vu déporter ces gens. On savait très bien à quoi ils étaient destinés par milliers. À l'époque, les 3 mois que j'ai passés à Drancy, j'ai vu défiler des milliers de gens, dont certains étaient pour moi un déchirement. Et puis, un beau jour, on m'a libéré parce que je suis né à Buenos Aires, en Argentine, et que j'avais la nationalité argentine. Le consul est intervenu et on nous a libérés. Je dis nous parce qu'il y avait mon père, il y avait mes petits frères et sœurs. Bon, et quand on est sorti, au bout de. Bon, je ne peux pas raconter tout le livre, on est sorti de là, assez traumatisé, en très mauvais état de santé, évidemment, mais on m'a remis dans une maison, genre pension de famille, où il n'y avait que des vieux messieurs. Hautement gradés, anciens militaires de la guerre de 14 et qui étaient juifs. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Moi, j'avais le droit de sortir parce que j'étais argentin, mais il fallait que je rentre à 8 heures du soir. Puis un beau matin, de nouveau Drancy, et eux sont tous passés au four. Je me suis retrouvé de nouveau dehors, mais recherché. Il fallait des faux papiers. Donc, mon père a pris contact avec la résistance pour des papiers pour nous. Et c'est moi qui étais au rendez-vous. Et là, tout a été décidé par cette simple rencontre avec un petit monsieur qui était ingénieur chimiste aussi et à qui j'ai donné des photos pour mettre sur ma fausse carte d'identité. Et on a dit « on garde des initiales ». Bref, et il me dit je te mets étudiant. J'ai dit non, pas étudiant parce que je dois travailler, il faut que je vive. Il me dit qu'est-ce que tu veux que je mette. J'ai dit teinturier, mais ça m'intéresse. Tu sais enlever les taches d'encre sur les vêtements. Donc j'ai dit oui, d'ailleurs j'ai fait des recherches sur les encres indélébiles, il n'y en a pas. Il m'a dit on a un seul petit problème. C'est l'encre bleue Waterman. Je dis, il faut analyser. Mais il me dit, c'est pas la peine, c'est du bleu de méthyle. Alors, je lui dis, mais acide lactique. Il me dit, comment sais-tu ça? Lui était ingénieur chimiste de très haut niveau. Hein. J'ai dit, parce que je travaille bénévolement une fois par semaine à la Beurre Ribel avec un chimiste et nous analysons la quantité d'acide lactique de la crème à la vitesse de décoloration d'une solution de bleu de méthyle. Ah, j'aurais jamais pensé à ça. Est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous? Évidemment, ça m'intéressait. Alors, je suis arrivé dans le laboratoire de faux papiers de la 6e. Il y avait deux jeunes filles qui tapaient à la machine, un garçon qui avait fait du droit et qui coordonnait les demandes de papier, à savoir qu'un monsieur qui a un accent fort a besoin d'un papier de. Comment ça s'appelle ?
D'étranger ? De travailleur étranger ?
Non, de. Comment on dit ?
Naturalisé.
Oui, il avait besoin d'un papier de naturalisation. Certaines personnes avaient besoin d'actes de baptême. Des actes de mariage, mais j'étais absolument affolé par la méthode de décoloration. Il faut savoir que même des enfants avaient besoin d'une pièce d'identité. c'est-à-dire c'était la carte d'alimentation. Il y avait les cartes d'alimentation J1 pour les tout-petits, J2, J3, moi j'étais J3, c'est-à-dire les adolescents. Et puis il y avait les T, travailleurs, il y avait A, qui étaient les adultes. Les quantités de nourriture attribuées n'étaient pas les mêmes. Bon, ces cartes d'alimentation, d'abord, il y avait le nom. Quand quelqu'un s'appelait Abraham Lévy, bon, ce n'était pas tout à fait le nom qu'il fallait pour ne pas être juif. Ensuite, il y avait un gros tampon en rouge, en diagonale, où il y avait juif. Donc, tous les juifs étaient repérés, ça veut dire étaient inscrits à la préfecture de police, qui faisait beaucoup de zèle et qui livrait aux Allemands des listes complètes de façon à pouvoir faire les rafles. Donc, j'ai vu les méthodes de travail, de décoloration, c'était abominable. J'ai dit, mais enfin, je me souviendrai toujours, j'ai dit, mais vous vous rendez compte, vous avez coloré à l'eau de javel bouillante des encres au galate et au tanate de fer qui vont réapparaître à cause des émanations d'acide urique de l'organisme dans les poches, vont réapparaître en jaune. Alors on m'a regardé avec des yeux tout ronds, surtout la chimiste qui était spécialisée et qui très vite m'a donné les responsabilités intégrales du laboratoire pour pouvoir aller convoyer les enfants vers les planques, les frontières, etc. Donc je me suis trouvé propulsé avec de plus en plus de responsabilités. Ensuite, le responsable du laboratoire m'a demandé de noter, parce que bon, j'ai commencé à faire des trouvailles les unes après les autres, très vite, et puis il fallait surtout passer non pas au gratouillage et au tripotage de papier, mais à la fabrication. Alors, avec un simple papier photo, en faisant un tannage, je pouvais l'utiliser comme une plaque litho. J'imprimais avec un simple bromure, il suffisait de le tirer à l'envers, de façon à pouvoir imprimer avec, et de fil en aiguille, j'ai perfectionné d'autres procédés qui étaient envoyés à tous les autres laboratoires pour tout le nord de l'Europe. Bon, j'avais 18 ans.
Je fais juste une aparté, ce que je trouve juste super intéressant entre la vie de l'homme et de l'artiste et tout ça, c'est que effectivement, mon père a fait de la photo toute sa vie et un jour, il a eu comme ça cette phrase de dire « Oui, mais enfin, quand j'ai commencé, c'était pour faire des tampons. » C'était pour... Il a commencé par la photogravure et la réalité de faire de la photo, c'était faire des tampons, sauver des gens. C'est seulement après qu'il en est venu à se dire qu'effectivement, il y avait quelque chose d'artistique dans la démarche, etc. Et éventuellement, faire des photos normales. Il n'avait pas le temps, non, du tout.
Oui, il n'en était pas question à ce moment-là. C'était la course contre la montre. Les arrestations, les déportations augmentaient, et nos moyens n'augmentaient pas tellement. Bon, en plus, les autres mouvements de résistance ont fait appel à nous et c'est devenu le laboratoire de plusieurs mouvements de résistance, comme le mouvement de libération nationale, ça veut dire de Gaulle, le combat, etc. Alors, bref, il fallait sauver le maximum de gens. Voilà. Et puis, après, je me suis engagé dans l'armée. Et puis, au lieu de m'envoyer sur le front, on m'a mis avec des fortes. J'avais là déjà 19 ans, avec des responsabilités énormes au ministère de la Guerre, faire les parachutages derrière les lignes allemandes. Pour dénoncer les camps dans lesquels il y avait des expériences médicales, parce que les Allemands tuaient tout le monde, y compris leurs propres complices, les médecins, pour qu'il n'y ait pas de témoins de cette horreur. Alors, il fallait, c'était pas des que des passeports ou que des cartes d'identité. Il fallait faire des identités qui tiennent debout. Ça veut dire dans la poche un vieux ticket de chemin de fer fripé de tel endroit, d'une lettre de la mère, d'une mère dans une enveloppe avec le timbre et le tampon, enfin tout ça, c'est ça la véritable identité, parce que la carte d'identité pouvait être fausse, le passeport pouvait être faux, mais tous ces petits papiers qu'on ne prend pas au sérieux ont une importance énorme. Et puis il y avait l'usure, enfin l'état de vieillissement, il y a énormément de choses, et la moindre erreur de ma part, et c'était condamner à mort quelqu'un. Donc c'était une responsabilité énorme. Bon, et puis aussi un autre problème dont je parlerai tout à l'heure. Alors ensuite, il y a eu les survivants des camps qui étaient en Allemagne, qui ne voulaient plus aller en Allemagne, qui ne voulaient pas aller en Pologne, qui ne voulaient pas venir en France, qui voulaient aller en Palestine à l'époque, qui étaient sous mandat anglais. Et donc j'ai accepté de mettre en route tous les papiers nécessaires jusqu'à, enfin ceux qui ont notion d'histoire, jusqu'à l'Exodus, c'est-à-dire des bateaux clandestins qui emmenaient les gens et qui souvent étaient détournés par les Anglais vers Chypre. Bon, c'était une lutte continue. Bon, ensuite, bon, là, les papiers étaient vitaux aussi. Et puis ensuite, bon, quand l'État d'Israël a été créé, avec une religion d'État, moi, je n'ai pas accepté du tout, parce que pour moi, les religions sont des questions personnelles. Chacun est que je respecte, toutes les religions sont valables, mais moi, je n'en ai pas et je n'en veux pas. Et puis, c'était une erreur, parce que deux peuples pouvaient vivre en bonne entente dans un pays, et là, c'est le désastre que vous connaissez tous. Voilà. Et puis, j'ai continué un beau jour. Il y a eu la guerre d'Algérie, et je n'ai pas aimé que la France, c'était pas pour aider les Algériens, c'était pour que la France, pour l'honneur de la France, qui utilisait les méthodes de la Gestapo, la torture, le racisme continu, enfin, et ça, j'ai pas supporté. Et j'avais là des moyens que je n'avais pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas me refuser quoi que ce soit, c'est-à-dire de me prêter une voiture, de garder à l'abri un Algérien en danger, etc. Enfin, donc c'était un travail énorme au-delà des faux papiers. Il n'y a pas que les faux papiers. Donc c'est vrai que un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu te rends compte combien de milliers de gens tu as sauvés ?» J'ai dit « Mais c'est jamais assez, parce que quand on est le seul survivant d'un camp, on culpabilise. » Quand on m'a fait sortir de Drancy, j'ai failli refuser par solidarité avec ceux qui étaient condamnés. Et puis, heureusement, j'ai pu faire en sorte de justifier ma survie. Et bien sûr, je n'en ai jamais parlé à mes enfants. C'est ma fille qui a découvert des petites choses et a commencé à questionner les quelques personnes encore vivantes qui faisaient partie de mon passé. Voilà, et c'est ça le livre. Je suis content qu'elle l'ait fait maintenant. Au début, je n'étais pas content. Je suis content qu'elle l'ait fait parce qu'il est bien écrit. Et puis, il est bon de savoir qu'il faut avoir les yeux ouverts sur le monde et ne pas laisser faire n'importe quoi.
Leïla, tu l'as appris assez tard, alors,
Moi, en fait, je savais des choses, mais petite, j'entendais des choses, c'était des discussions de grands, en général, et je savais globalement que tu avais eu des activités de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. J'avais compris que tu avais aussi aidé les Algériens pendant la guerre d'Algérie, et je pensais donc en savoir énormément. Et effectivement, en questionnant, je me suis juste rendu compte que je savais rien du tout, quoi. Mais enfin, rien du tout par rapport à tout ce qu'il y avait à savoir, et notamment des périodes entières avec beaucoup, beaucoup de luttes dont j'avais absolument aucune idée. Et je suis contente d'une chose, c'est d'avoir réussi à, en tout cas, à le convaincre que de d'écrire un livre comme ça, c'est nécessaire pour ma génération et pour celle à venir, celle de nos enfants. Et surtout parce que quelque part, il y a beaucoup d'espoir, même s'il y a plein de désillusions. À chaque fin de combat, c'est une désillusion terrible qu'il ressent, etc. Mais à chaque fois, il y retourne. Et donc, ça donne beaucoup d'espoir. Et surtout, on voit dans le livre que finalement, il y a des choses fondamentales qui changent dans la société, dans le monde, par la force et la volonté d'une poignée d'hommes. On attend souvent d'avoir des armées derrière nous pour se lancer. Ouais. Finalement, non, c'est pas le cas. Et ça prouve ça. Alors bon, là, mon père s'est arrêté au milieu du livre, je dirais. Il nous dit pas tout. Voilà, la guerre d'Algérie a duré longtemps. Il y a passé beaucoup de temps en clandestinité. Il y a sacrifié beaucoup de choses. Il a deux grands enfants qui sont mon demi-frère et ma demi-sœur, qui étaient des petits à l'époque. Donc, il sacrifiait l'éducation de ses enfants, sacrifier ses amours, sacrifier sa vie d'artiste aussi, ses ambitions artistiques. Donc la guerre d'Algérie est vraiment ce moment terrible où il a choisi la cause à tout le reste, en fait. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque juste après, étant connu, plus ou moins connu, en tout cas suffisamment pour qu'on vienne le chercher, des réseaux de résistance et de libération, il s'est mis donc à travailler, alors toujours avec un même contact qui lui a garanti justement de n'avoir jamais été arrêté par la police, d'avoir un strict respect du cloisonnement, un seul contact, etc. Et il s'est embarqué dans des luttes très, très diverses, et le monde était en mouvement. Et alors, je sais, tu vas encore dire, oui, mais ça, c'est un détail, mais je vais le dire quand même. Mais ça va jusqu'au faux papier de Daniel Cohn-Bendit pour qu'il revienne parler à un meeting qu'il a accepté de faire, tout en disant que c'était le plus médiatique et le moins utile papier qu'il ait fait dans sa vie. Mais qu'en même temps, voilà, c'est aussi histoire de dire à un moment donné, voilà, vous pouvez jeter les gens derrière les frontières, les idées n'en ont pas, elles les traverseront. Donc j'ai l'impression d'oublier plein de choses, mais sur les différentes luttes, ça allait, beaucoup de déserteurs aussi, des déserteurs américains qui voulaient pas faire le Vietnam. J'arrive pas à les citer parce qu'à un moment donné, il y en a tellement, à la fois parce que le monde est en ébullition et qu'il a un contact qui est partout et en contact avec tous les réseaux de résistance. Et on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter et qu'à côté de ça, il n'a pas de vie. Enfin, il en a une, mais elle est complètement secrète. Il a différentes facettes. Il y a ceux qui le connaissent comme ce monsieur Intel. D'autres savent qu'il a des activités comme ci, comme ça, etc. Et à devoir mentir ou rester muet devant toutes les situations, y compris les crises de jalousie des femmes qui pouvaient le croire infidèle quand il allait faire des faux papiers la nuit, quoi. Voilà.
il faut que j'ajoute encore quelque chose. Évidemment, le seul moyen de pouvoir dire oui ou non, c'était de refuser d'être payé. Sans quoi on devient un mercenaire et on doit obéissance à un groupuscule ou à un groupe ou à un parti. Donc, il fallait assumer. Ce n'est pas toujours évident parce que les frais nécessaires à toutes ces fabrications, ce n'est pas rien. Et bien sûr, c'est au détriment de soi-même. Mais je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je referais exactement de ce que j'ai fait. Parce que c'était pour moi inadmissible de voir tuer, massacrer systématiquement des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, ou parce que, enfin, ce que j'ai vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà.
Est-ce que vous avez été importuné par des gens qui ne partageaient pas vos engagements, vos idéaux, mais qui voulaient utiliser vos talents ?
C'est arrivé, mais en général, j'étais pas connu, j'avais pas une boutique avec une façade officielle. Il n'y a que des gens, une personne seulement par organisme que j'ai accepté d'aider, qui avait le droit de me contacter, et avec beaucoup de prudence. Sans ça, je n'aurais jamais tenu 29 ans de clandestinité sans que la police ne vienne arrêter tout ça.
Cependant, j'ajoute quand même que les raisons qui ont fait que tu arrêtes, elles sont multiples. Mais parmi elles, il y avait aussi le fait que il s'est arrêté à la fin des années, à la fin de 1971, et que c'était le début des années 70, avait il y avait des groupuscules qui se créaient, qui confondaient aussi révolution avec banditisme. Et que voilà, lui, il était un des plus âgés des réseaux, d'avoir lui d'être là depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait énormément de personnes jeunes, pleines d'espoir, machin, etc., qui tout d'un coup, après des discussions qu'ils pouvaient avoir avec eux, parce qu'ils venaient pour une micro-formation, pour changer quelques petites choses sur des papiers, etc., où il a pu se rendre compte que quelque chose changeait, ou en tout cas que de nouvelles personnes arrivaient avec une fascination pour les armes, l'argent, etc., qui ne lui plaisait pas. Et ça fait partie, évidemment, des raisons pour lesquelles il a complètement arrêté. 92. On a eu nos papiers français tous ensemble en 1992.
Oui. Alors, comment ?
Après la guerre, les papiers français, on te les a proposés ?
Oui. Alors, c'est-à-dire que quand j'étais au ministère de la guerre, sous-officier, j'étais pas d'accord à un moment avec ce qui se passait. D'un côté, la préparation de la guerre d'Indochine. D'un autre côté, j'avais constaté que les Français moyens avaient gardé un état d'esprit aussi raciste, qui n'avaient rien compris. Beaucoup de gens disaient, mais enfin, ces Juifs, ils reviennent là, mais ils ne sont pas tous morts. Et vous vous rendez compte, ils ont le culot de venir récupérer leur appartement. Et nous l'avons acheté, nous sommes les acquéreurs de bonne foi, etc. Il y avait des choses inadmissibles. Et j'ai décidé de m'occuper de l'immigration clandestine. Et j'ai vu mon colonel, qui m'aimait beaucoup d'ailleurs, et que j'aimais bien aussi, parce que tous les officiers de carrière du ministère étaient entre 40 et 60 ans. Moi, j'en avais 19 à la fin. Alors, j'ai dit, je démissionne. On m'a dit, vous n'avez pas le droit de démissionner d'un état-major de renseignement. J'ai dit, vous n'avez pas le droit d'avoir un étranger dans un état-major de renseignement. Mais vous êtes français d'office. J'ai dit, je ne veux pas être français, tous des collabos, des salauds, etc. Bref, on a dit, il est devenu fou. Aujourd'hui, on dirait qu'il a pété les plombs. Mais à l'époque, on a dit qu'il est devenu fou. Et on m'a laissé tranquille. Je me suis occupé de l'accueil des déportés à l'hôtel Lutetia. Enfin, et puis, je continuais à manger aux messes des officiers, à dormir à l'étoile dans le... dans le, comment ça s'appelle,
l'hôtel
où j'avais ma chambre. Et puis, je passais mes nuits à l'hôtel Lutetia à essayer de retrouver des gens que j'avais vus déportés. Et il y avait une seule personne que j'ai revue. Donc, j'étais très mal, en fait. Mais alors, quand j'ai demandé la nationalité pour ma femme et mes enfants, quand je suis revenu en France, après 10 ans d'Algérie, de 71 à 81, j'ai un casier judiciaire vierge et j'ai eu très rapidement cette nationalité. Mais je ne l'ai demandé que très tard. Et comme j'attendais les papiers dont certains sont arrivés, d'autres pas, un jour, il y avait un numéro de téléphone. J'ai téléphoné au service des naturalisations et il y a un monsieur qui me dit « Oui, tout est prêt, on n'attend plus que la signature, ça va venir dans une quinzaine de jours. » Vous savez que vous êtes le seul étranger qui a refusé la nationalité française en telle année. C'était dans les dossiers. Alors, bien sûr, quand je l'ai demandé, on l'a eu. Donc, mon épouse et mes enfants sont... Et moi-même, sommes français.
En 92, oui.
Oui. Alors, il y a une chose très drôle. Bien sûr, j'ai des séquelles. Je n'ai pas de blessures de guerre, mais j'ai des séquelles graves qui sont dues à cette surtension, etc., qui sont reconnues et que, d'ailleurs, j'ai failli en mourir il y a à peu près un an. Et j'ai rebondi, je suis bourré de médicaments, etc. Et des amis m'ont dit, mais tu as droit à une pension d'invalidité militaire. J'ai dit, ah oui, ben écoute, c'est une association d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Si tu es d'accord, on fait tout le nécessaire. Alors, ils ont déposé un dossier, il y a eu des papiers, des témoins, etc. Et puis, entre-temps, j'ai reçu plein de décorations hein, de tous les côtés. Alors, il y en a plein à la maison, c'est très drôle. Un jour, je vais faire une photo de moi devant, tenue, genre Napoléon, avec sur le mur toutes les décorations et tous les espèces de diplômes qui vont avec.
Osténopée, avec 4 heures de pause.
Oui. Oui. Et alors, tout le dossier est parti et j'ai reçu une réponse négative. C'était « Monsieur, vous n'avez aucun droit parce que vous n'étiez pas français en 1939. » En 1939, effectivement, j'étais argentin et j'avais 14 ans. Alors, ça ne m'a pas plu. Un ami avocat a pris l'affaire en main et puis j'ai reçu effectivement cette pension. Ça veut dire qu'il y a la reconnaissance de ce que j'ai fait. Ce n'est pas une grande somme, c'est une somme ridicule d'ailleurs, mais bon, mais c'est le principe. Voilà.